Radio Kapi.
La jeunesse congolaise appelée à l'unité, à taire ses divergences politiques, tribales, ethniques, tout en ayant à l'esprit qu'elle appartient à une seule tribu qui est la RDC. C'est ainsi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé lors d'une réception qu'il a offerte à près de 250 délégués de jeunes des 26 provinces de la RDC à la Cité de l'Union africaine ce samedi. Et puis une conférence internationale contre la corruption ouvre ses portes demain mardi à Washington DC aux États-Unis. La RDC prend part à ses assises. Quel est l'état des lieux de l'ampleur de la corruption en RDC? Michel Kifindangoy, notre envoyé spécial sur place à Washington, nous en parle dans cette édition du journal. Enfin, notre invitée dans cette édition du journal, c'est Madame Deborah Mupita, coordonnatrice du réseau Femmes et Développement au Nord Kivu. Elle plaide depuis Nairobi pour la mise en place d'une justice transitionnelle et la non-amnistie des crimes de guerre, actes de génocide et crimes contre l'humanité perpétrés par les groupes armés. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Mais tout d'abord, sachez que l'Assemblée nationale a voté le week-end le rapport de la commission ECOFIN qui relève le budget 2023 à 15,8 milliards de dollars américains contre 14,6 milliards proposés par le gouvernement. Ce format sorti de plusieurs recommandations a donc été voté en définitive à l'unanimité de 402 députés sur 402 votants. Les nouvelles ressources de l'ordre de 1,2 milliard ainsi dégagées ont été affectées vers les domaines prioritaires et porteurs de croissance, explique le président de l'ECOFIN. Le projet de loi ainsi voté est transmis au Sénat pour seconde lecture qui débute ce lundi et sera envoyé au président de la République pour promulgation. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, appelle la jeunesse congolaise à l'unité, à taire ses divergences politiques, tribales et ethniques, tout en ayant l'esprit qu'elle appartient à une seule tribu, qui est la République démocratique du Congo. Il s'est ainsi exprimé ce samedi à la Cité de l'Union africaine. C'était à l'occasion de la réception qu'il a offerte à près de 250 délégués de jeunes de 26 provinces de la RDC. Ils sont venus à Kinshasa pour prendre part le 30 novembre dernier à une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse. Félix-Antoine Tshisekedi encourage la jeunesse à se mobiliser contre l'agression orchestrée par le Rwanda sous couvert du M23. Mais selon lui, je le cite, il ne faut pas haïr le peuple rwandais car ce sont nos frères et sœurs. Le problème vient de leurs dirigeants. Fin de citation. On écoute le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses propos que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70, alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai. J'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique.
Et puis, non à la balkanisation de la RDC, nous voulons la paix. La souveraineté et l'intégrité de la RDC ne sont pas négociables. Sont entre autres des messages scandés hier dimanche par les chrétiens catholiques à Kinshasa, Beni, Lubumbashi, Kindu, Kisangani, Mbujimayi et Matadi notamment. Ils ont marché pour faire entendre leur voix qui réclame l'arrêt de la guerre déclenchée par le M23 avec le soutien du Rwanda et le retour de la paix. Dans la capitale, la marche des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa, partie des paroisses de la ville, a eu plusieurs points de chute, dont le palais du peuple. Pour Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, l'objectif de cette manifestation est de dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Paul Matendo, reportage.
Kinshasa, c'est les mêmes.
C'est sur cette note que s'est clôturée la marche des fidèles catholiques. Ils portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, par exemple, « L'intégrité de la RDC n'est pas négociable ». Parmi les manifestants, Mgr Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa.
Nous ne voulons plus voir notre peuple souffrir et mourir chez lui simplement à cause des minéraux de notre pays. Quel mal avons-nous fait, nous autres? Simplement accueillir des gens, c'est nous, et ces gens ont trouvé que notre pays est riche et ne veulent pas l'abandonner. Non seulement qu'ils ne veulent pas l'abandonner, mais ils viennent tuer nos gens ici chez nous. Voilà pourquoi l'épiscopat a demandé aux chrétiens de se lever pour dire comme un seul homme non à la balkanisation du Congo, oui à la paix au Congo. L'intégrité territoriale n'est pas à négocier.
Le mouvement citoyen Lutte pour les changements était également au rendez-vous. Espoir Ngaloukié appelle les autres églises à s'associer aux chrétiens catholiques.
Pour nous, bien qu'elle est tardive, la prise de conscience de l'église en appelant la population congolaise, elle est encouragée.
Que les autres églises emboîtent les pas à l'église catholique.
Cette marche a connu la participation des personnalités politiques catholiques comme Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat.
À Goma, par contre, elle a été annulée. Selon un communiqué du comité laïque de coordination, la décision d'annuler cette marche a été prise après l'évaluation de la situation sécuritaire dans et autour de la ville de Goma. Une décision qui vise également à éviter une éventuelle infiltration, selon le même communiqué. Pendant ces temps, dans les territoires les Rutshuru, une accalmie relative est observée sur toutes les lignes de front, notamment dans le Bwitu vers Kibumba, tout comme sur l'axe Nyamilima, plus au nord du territoire. C'est en tout cas la situation qui a prévalu hier dimanche. Cependant, malgré cette accalmie, plusieurs sources rapportent des exactions et impositions auxquelles est soumise la population dans les zones occupées par les rebelles et leur soutien rwandais. Le détail avec vous, Pele Kipelamundu.
Tout d'abord, à Kiwanja, des sources concordantes indiquent que les éléments du M23 ont opéré un bouclage très tôt ce dimanche dans le quartier Mabungo. Ils ont brûlé les bazars de la communauté Nandé appelée Kianda avant d'interpeller plusieurs personnes dont un notable de la dite communauté. Ces bazars étaient considérés par les rebelles comme un lieu de réunion des Maïmaï, situation qui accroît l'inquiétude au sein de la population à Kiwanja. En outre, ces rebelles ont instauré depuis quelque temps une taxe de $10 par carré de champs pour tous les agriculteurs dans les zones occupées. Même situation pour les commerçants et autres entreprises, notamment les usines de fabrication de boissons, qui sont sommées de payer des montants allant jusqu'à $250 et plus, suivant la catégorie. Des travaux forcés communautaires sont aussi d'application et toute la population s'y conforme, ajoutent nos sources. Sur l'axe Nyamilima-Ishasha, les rebelles du M23 occupent déjà plusieurs localités jusqu'à 12 km de Nyamilima. C'est notamment Nguenda qui se gourou Katugourou et Kisharo. Nos sources sur place affirment qu'aucune présence des FRDC ni la PNC n'est observée à Nyamilima. Toutes les activités économiques sont paralysées dans les zones occupées car la population n'arrive pas à s'approvisionner. Elle subit également d'autres mesures contraignantes. Par ailleurs, on apprend que les rebelles et leurs alliés sont en train de renforcer toutes les positions qu'ils occupent dans les Rutshuru.
Toujours au nord Kivu, les autorités coutumières et politico-administratives locales de la chefferie de Bwito expriment leur consternation à la suite du massacre des civils perpétrés par les rebelles du M23 à Kishishe et environ. Dans un mémorandum adressé au président de la République, les autorités locales de Bwito, qui ont trouvé refuge à Goma, condamnent fermement ces actes de terrorisme infligés aux populations et réaffirment leur soutien au FRDC afin de mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23. Dans une déclaration faite samedi à Goma, ces responsables locaux font état de massacres et de plusieurs exactions commises par le M23 entre le 15 octobre au 30 novembre 2022 dans le Bwito. Un extrait de leur déclaration, lu par le chef du groupement de Bukombo, David Héritier Kaombo.
C'est avec consternation que nous décrions les massacres de nos populations sur la terre de nos ancêtres, dans les zones sous contrôle des terroristes du M23 depuis l'envahissement du groupement Tongo, Bishusha, Luya, Bambo, Centre et Kishishe, toujours en groupement Bambo, massacres commis par les rebelles du M23 pour la période du 15 octobre 2022 jusqu'au mercredi 30 novembre 2022. Ces massacres faisaient suite à d'autres abus des droits humains, entre autres les travaux forcés, recrutement forcé des jeunes dans leurs vilains mouvements, pillage systématique de biens de la population et violences sexuelles commises aux filles et femmes. Plus de 64 personnes ont été tuées par ces mêmes terroristes dans les villages Muhindo, Kusekera et Bugina, toujours en groupement Tongo. En groupement Bambo, village Bambo Centre, Kishiche, Kirumba, Kapopi, les Bilay, plus de 150 personnes, tués horriblement, dont la quasi-totalité est le village Kishiche, où une soixantaine de populations civiles étaient tués dans l'église adventiste de Kishiche, dont trois sont les enfants.
Ces autorités coutumières recommandent au président de la République, entre autres, de lancer une offensive contre les rebelles du M23, de diligenter une enquête indépendante pour que justice soit faite et d'envisager une réparation des préjudices causés aux familles de victimes, mais aussi d'assister les déplacés de guerre. Entre-temps, soutien aux déplacés internes et autres victimes de catastrophes naturelles en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lance ce lundi 5 décembre, dans la soirée au studio Maman Nguébi de la RTNC, la campagne nationale de solidarité et de soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et le Grand Bandundu. D'après Hubert Tétika, directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, cette campagne initiée par le chef de l'État vise à cultiver chez les Congolais un élan de solidarité pour soutenir ceux qui sont en difficulté. On écoute Hubert Tétika au micro de Pierrot et la Mégie.
Nous voulons susciter tout simplement un élan de solidarité, un élan patriotique. La soirée du Téléthon n'est qu'un lancement en fait. Ceux qui veulent bien donner leur don vont appeler, il y aura un numéro vert, c'est 116, je peux déjà l'annoncer d'ailleurs. Ils appelleront à ces numéros-là pour dire, voilà, moi tel, je préfère donner 1000 francs, moi tel, je donne 1000 dollars, moi tel, j'ai ceci. Et ça va être enregistré. Au fur et à mesure que ça viendra, il y aura un compteur que tout le monde suivra. Et à la fin du Téléthon, dans la soirée là, il y a des choses qui seront mises sur place. Pour ceux qui sont loin, ça sera des promesses au fait qu'on va comptabiliser à la fin. Et à la fin du Téléthon, on saura réellement combien on a pu mettre en place. Ça va commencer par la contribution de l'État même, parce que l'État aussi ne va pas venir demander la contribution des gens sans que lui-même fasse quelque chose. Donc l'État aussi fera sa part, et après, à la fin, on saura qu'est-ce qui est entré. C'est pas que parce que ça s'arrête seulement ce soir-là. Dire le lendemain, après-demain, les jours qui suivront, les gens peuvent toujours continuer à donner. C'est un élan patriotique que nous commençons. C'est en rapport avec le message du chef de l'État où on dit voilà, nous devons nous souder, nous devons nous entraider. Plus on est unis, plus on est fort.
Alors, rendons-nous à présent à Nairobi, au Kenya, où se déroulent les travaux du troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC. Ces travaux vont se poursuivre ce lundi au Safari Park Hotel de Nairobi. Selon des sources de l'organisation, cet avant-midi, les facilitateurs de l'EAC pour ce processus, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, va s'entretenir avec les délégations de la société civile et des organisations des femmes du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Il s'agira des délégations constituées par province. D'après la même source, l'après-midi se tiendra une plénière dans laquelle sera présentée les recommandations issues des travaux des différents groupes. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, la conférence internationale contre la corruption ouvre ses portes demain mardi à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique. La RDC prend part à ses assises avec la participation de l'APLC, du ministère de la Justice, de l'IGF, du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que de l'OSCEP. Pour assurer la couverture de ce premier forum mondial réunissant des chefs d'État, la société civile et les secteurs privés pour élever les défis posés par la corruption, Radio Okapi a dépêché un envoyé spécial qui va réaliser à partir de Washington une série de reportages sur cette épineuse question qu'est la corruption et ses conséquences. Dans cette première production, réunion Michel Kifindangoy à Washington, y dresse l'état des lieux et l'ampleur de la corruption en RDC.
La RDC se compte parmi les pays au monde où la corruption se porte très bien, affirme le professeur Roger Claude Liwanga.
D'après les indices de l'organisation Transparency International, la RDC occupe la 170e place sur 180 sur la liste des pays qui connaissent une prévalence de la corruption de manière élevée. En luttant contre la corruption, bien entendu, cela permettra à résoudre la question de la pauvreté.
D'après l'ancien conseiller spécial du chef de l'État honoraire, le professeur Luzolo Bambi, la RDC perd chaque année plus de 15 milliards de dollars à la suite de la corruption. Le professeur Kabisa parle d'un peu plus.
C'était pas 15 milliards, c'est 27 milliards. Ah oui, la corruption, c'est le fait d'agréer un cadeau pour ne pas organiser une vérité. Dans notre pays, la corruption n'a jamais été combattue. On ne fait que constater l'existence de la corruption. Chez nous, la corruption la plus dangereuse, c'est la corruption judiciaire.
Au regard de l'ampleur de la corruption en RDC, la délégation congolaise aura donc beaucoup à donner et à apprendre à ce sommet de Washington afin de bien réajuster les moyens de lutte contre ces fléaux. De Washington et DC, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en Ituri, la coordination provinciale de la société civile demande au gouvernement de réhabiliter d'urgence les routes nationales dans la province de l'Ituri pour éviter une exacerbation des contestations des usagers des routes et des commerçants. Dieudonné Lossa déclare que des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la dégradation des routes nationales 4, 27 et 44. La société civile de Mambasa a décrété depuis mardi dernier des journées villes mortes suivies d'un civisme fiscal pour une durée indéterminée. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, a également appelé les opérateurs économiques de l'Ituri à suspendre leurs activités. Le coordonnateur de la société civile ajoute que si rien n'est fait dans l'urgence, des mesures drastiques seront prises pour contraindre le gouvernement qui perçoit des taxes et autres droits sur ses ouvrages à assumer sa responsabilité. Dieudonné Lossa est joint par Isaac Remoyopi.
À Mambasa, la société civile a décrété effectivement le civisme fiscal. L'UNADI en a fait, mais nous pensons que la solution durable pour ces problèmes de route, ça ne réside pas dans le civisme fiscal. Parce que le civisme, on ne peut pas le pratiquer dans la ville où ici à Bounia, alors que déjà au niveau des frontières, on est obligé de payer avant de traverser. Ça veut dire que c'est une mesure qui ne va pas vraiment nous être très utile ou très efficace. Mais je suis convaincu que si l'État fait bien son travail, la solution, on en aura. Mais aussi l'État est capable de trouver la solution. Il y a d'autres solutions que les gens peuvent trouver. Et je crois que c'est pour très bientôt si l'État ne fait rien. Nous n'allons pas dévoiler notre stratégie maintenant, mais je vous l'ai dit, je vous promets, dans bref délai, si on ne voit pas les enjeux sur les routes, alors nous allons dans peu de temps prendre des dispositions qui vont obliger l'État à faire son travail.
De son côté, le gouverneur a rassuré que sa hiérarchie est déjà saisie et que des dispositions sont en train d'être prises pour lancer des travaux de réfection de ces routes.
Actualité internationale.
Le 62e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevé hier dimanche soir, 4 décembre. L'organisation demande la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel.
L'invité.
Notre invitée dans cette édition du journal est la coordonnatrice du réseau Femmes et Développement au Nord Kivu qui participe à Nairobi au Kenya au troisième round du processus pour la paix dans l'Est de la RDC. Madame Deborah Mupita plaide pour la mise en place d'une justice transitionnelle et la non-amnistie des crimes de guerre, actes de génocide et crimes contre l'humanité perpétrés par les groupes armés. Elle s'entretient ici avec Martial Papi Mukeba. Suivez.
Deborah Mupita, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de déposer au secrétariat technique de l'EAC vos propositions pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Pouvons-nous en savoir plus?
Comme vous le savez, la RDC a déjà signé plusieurs accords de paix, mais il ressort que ces accords ne sont pas souvent évalués en amont et en aval, et certains engagements dans ces accords sont réalisés mais taillés sur mesure de parties prenantes. Et pire encore, ces accords sont signés sans concertation ou avis de la population. Ces accords donnent souvent des obligations au gouvernement congolais et pas aux groupes armés. Les femmes et les enfants sont pas souvent cités dans ces accords. Voilà pourquoi, dans notre cahier des charges remis au secrétariat technique de l'EAC, nous avons recommandé ce qui suit. Premièrement, que toutes les initiatives de paix qui vont se faire dans ce processus de Nairobi se fassent dans le respect de l'intégrité de la RDC. Deuxièmement, que toutes les structures d'encadrement de la population, à savoir la société civile, le mouvement citoyen, organisation féminine, soient réellement associées à tous les processus qui doivent aboutir au désarmement de groupes armés. En plus, il faut qu'il y ait un principe de réciprocité de toutes les parties prenantes à ces processus. Par exemple, qu'il ne soit pas seulement le gouvernement qui doit avoir des obligations aux groupes armés. Quatrièmement, que ces processus de Nairobi ne puissent pas amnistier le membre des groupes armés aux terres des crimes de guerre, d'actes de génocide et crimes contre l'humanité. Et enfin, il faudra prévoir des sanctions pouvant être respectées en cas de non-engagement par les groupes armés pendant ces processus.
Et pensez-vous que ces recommandations seront prises en compte par l'EAC?
Oui, il y a une urgence que ces recommandations soient prises en compte, car il est impossible de faire la paix en mettant de côté la justice. il faut activer le mécanisme de la justice transitionnelle pour justice et réparation à toutes ces femmes victimes de violences, les femmes utilisées comme esclaves sexuels, ces enfants qui ont vu leurs parents massacrés, mutilés, et à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui déplacées et qui vivent dans des tentes, des camps des déplacés, après avoir vu leur village et localité incendiés par des groupes armés. Oui, c'est le moment de faire la paix, mais pour une paix durable, il faut rendre justice à ces victimes.
Et en tant que jeune femme surtout, croyez-vous au processus de Nairobi?
Nous croyons à ces processus, mais sa réussite dépend de plusieurs facteurs, notamment la volonté des groupes armés en acceptant de s'inscrire au programme PDDRCS, la volonté et l'engagement du gouvernement congolais à mettre du sérieux dans le programme PDDRCS, si les groupes armés acceptent de déposer les armes, et enfin le pays voisin de la RDC, dont ses membres de l'EAC, qui pilote les processus de Nairobi, doivent également s'engager à cesser d'une manière ou d'une autre d'être auteur de l'insécurité dans l'est de la RDC en soutenant les groupes armés.
Déborah Mopita, merci.
Merci à vous aussi.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Pierrot et la Meji et la supervision de Pélé Kipelamondo. Merci également à vous pour votre particulière attention.